18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Voilà, pour décrypter l'actualité sportive, l'analyser avec nos consultants. Aujourd'hui, on va parler du PSG, notamment après sa défaite d'hier face à Nantes, 3-1. On va parler de Ligue des Champions, notamment des matchs d'hier, et la victoire de Manchester City, 4-3 face à Tottenham, ou encore la victoire de Liverpool, 4-1 face à Porto. On parlera également de foot féminin avec notre invité Nisrine Daoudi qui évolue à Montauban. On parlera aussi de la Ligue des Champions avec Sadio Mané qui montre la voie aux joueurs de Liverpool et à Porto, comme je l'ai déjà dit. Et on finira avec l'Ajax qui a, voilà, la valeur marchande des joueurs de l'Ajax qui a explosé en 9 mois. C'est parti pour Time Sport.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et notre réalisateur Hugo qui va très rapide, voilà, direct avec le
ras-le-bol.
On est
très rapide aujourd'hui.
Eh oui, bah, je vais faire un petit tour de table pour présenter un peu les consultants aujourd'hui. Olivier G, comment ça va Olivier ?
Ça va bien sous ce beau soleil. Désolé Mamadou, je sais que tu fais la météo d'habitude, ouais, tu fais la pluie et le beau temps sur l'émission, ouais, mais tout va très bien.
Il fait surtout le beau temps. Mamadou Lamine Manet.
Ça va très bien Guillaume, un peu en nage parce que j'ai accéléré dans les derniers mètres et puis il va falloir que je reprenne le sport.
D'ailleurs. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est pas facile. Hein,
c'est
pas
facile. Hein. Moi, j'ai été aidé grâce à Mohamed, voilà, conducteur RATP pour venir jusqu'ici. Je tiens à l'embrasser. Nassim, comment ça va Nassim Bourras ?
Bonsoir à toi Guillaume, bonsoir à tous.
Et notre coach national qui est toujours concentré, voilà, dernière stat, notre coach
non,
Claude
Tollet. Il fait semblant, c'est différent.
Ouais. Comment ça va Claude ?
Ça va très bien, je ne sais pas lire, Guillaume, tu le sais bien.
Non,
tu ne sais pas lire. Bah,
c'est un art de faire semblant surtout.
En tout cas, j'espère que les Parisiens ont bien lu. Il y a bien eu 3-1 hier pour Nantes.
Non, déjà c'est 3-2.
3-2, voilà.
3-2, 3-2.
Il ne sait pas lire non plus.
Autant pour moi.
On est illettré dans cette émission.
Excusez-moi, j'ai manqué un moment du match. 3-2, merci. En tout cas, encore battu, le PSG n'a de nouveau pas su obtenir le titre au terme de son pire match de la saison. Enfin, l'un des pires matchs, puisque évidemment, il y en a eu d'autres.
Prochain est l'avenir.
C'est ça. Attention, leur porte pas la poisse, Mamadou.
Ils n'ont pas besoin de nous pour leur porter la poisse en ce moment, tu sais.
Ils s'avancent fébrile vers la finale de la Coupe de France face à Rennes, avec une confiance entamée, et il n'est pas certain de pouvoir récupérer tous ses absents. Un petit mot sur la, on va pas appeler ça une performance, sur le match hier entre Nantes et le PSG.
Ben, je crois que c'est clair, c'est pas une performance. T'as bien raison de le dire. La saison du PSG, pour moi, elle est terminée depuis la défaite face à Man U. Je pense que les gars se sont arrêtés. Je pense que l'erreur de Tourelle, s'il y en a une vraiment à relever, elle est là, c'est qu'il a pas su remobiliser les troupes après ce terrible échec pour le PSG, puisque c'était quand même l'objectif numéro 1 de la saison, c'était cette Ligue des Champions. Et depuis, le jeu parisien, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vachement moins fluide. On sent que les gars sur le terrain. Ils sont plus vraiment là, c'est chacun qui joue pour sa pomme. Et effectivement, il y a beaucoup d'absents, mais pour moi, l'excuse des absents à chaque fois, ça suffit pas. L'effectif de Paris est pléthorique. Normalement, ça aurait dû continuer à fonctionner.
Alors, on va revenir évidemment sur l'analyse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain à la fin de ce match. Voilà, Tuchel qui a déclaré l'analyse est très difficile. On a joué très très mal. Un petit mot justement sur ce match et sur ses déclarations en fin de match du technicien allemand, Nassim.
On parlera de l'Ajax un peu plus tard dans cette émission, mais c'est intéressant de placer un peu la comparaison entre ces deux équipes. On a d'un côté une équipe qui a fait confiance en ses jeunes lors de ces dernières années et qui leur rentre plutôt bien avec une finale d'Europa League et maintenant une demi-finale de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, une équipe du PSG qui ne fait pas confiance en ses jeunes, qui fait confiance plutôt à des joueurs achetés 220 millions d'euros, 180 millions d'euros. Alors, c'est une politique, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas non plus d'un côté de veiller sur les jeunes, de leur donner du temps de jeu, parce que là, le message envoyé à ces jeunes-là, c'est voilà, quand il y a des blessés, vous allez pouvoir jouer un ou deux matchs en fin de saison quand il n'y a plus rien à jouer. Et puis quand ils reviendront de blessure, bah, vous revenez en équipe en réserve. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous allez à Bordeaux comme Yacine Adli, ou vous allez en prêt au Celtic comme Oya. C'est malheureux, il y a une gestion des jeunes catastrophique. Et pourtant, les jeunes du PSG sont très très bons. On parle là d'un des centres de formation les plus cotés de France, voire du monde, parce que faut pas oublier que l'Île-de-France génère énormément de grands talents. Le dernier en date, Kylian Mbappé, vient d'Île-de-France. Donc c'est vraiment très malheureux pour le PSG qui n'arrive pas à bonifier ce vivier de talents. Et derrière, on se retrouve avec des jeunes du centre de formation qui végètent en équipe réserve et qui, au mieux, font quelques apparitions avant de quitter le club pour partir dans de petits clubs, vu qu'ils n'ont pas eu l'ambition et peut-être, pourquoi pas, un peu de temps de jeu dans l'équipe première pour pouvoir se faire un peu la main. C'est malheureux, cette gestion des jeunes.
En tout cas, Claude, c'est une deuxième lourde défaite, on va dire, hein, même si voilà, il y a eu 3-1, il y a eu 3-0, il y a eu 3-1, il y a eu 3-2, mais il y a surtout eu un match avant, 5-1 contre Lille. On ne l'oublie pas, ce match, c'est dur pour le Paris Saint-Germain en ce moment.
C'est dur pour le Paris Saint-Germain. Ils vont être champions hein, d'ici quelques temps.
Ah, ils sont champions depuis octobre, faut pas se mentir.
Bien sûr. Moi, je les considère comme étant champions depuis le mois d'août.
Oui, voilà.
C'est juste de savoir après combien de points d'avance ils ont.
Exactement, c'est ça la compétition. Vont-ils dépasser les 100 points? C'est la question qu'on se pose en début de saison.
Mais ce qui est compliqué, c'est que t'as une équipe du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à franchir ce palier en Coupe d'Europe. Et en fait, t'as tellement d'avance. T'as tellement d'avance et de différence avec les autres écuries du championnat, bah que tu te retrouves à, on a le sentiment que le PSG joue des matchs amicaux, et il est là un petit peu aussi le danger, c'est que saison européenne terminée, objectif a priori Ligue des Champions, on banalise
le reste, bien sûr.
Pour plusieurs raisons, le championnat de France, la coupe, etc. Et en fait, on se retrouve comme ça à jouer. On a le sentiment que ça joue sans intérêt, qu'on attend la saison prochaine.
Petit chiffre, c'est la pire série du PSG en championnat depuis 7 ans.
Exact.
Oui, mais va falloir quand même. Je pense que moi, il y a des problèmes beaucoup plus profonds d'organisation en interne, mental. Enfin, je veux dire, j'entendais le coach qui se plaignait que ça faisait 10 matchs qu'il jouait avec 14-15 joueurs, mais ça, c'est pas une excuse. Ils ont les moyens limités. Tu dois être capable de construire une équipe.
Même pas un centre de formation qui est là pour les aider.
Oui, un centre de formation où tu recrutes des joueurs capables de pallier l'absence des titulaires.
Claude, comment on peut expliquer ces deux mauvaises passes? Mais au-delà de ça, une demi-finale contre Nantes, 3-0 à domicile, et un match à l'extérieur contre Nantes, perdu 3-2. En l'espace de voilà, parce que la demi-finale, Olivier, c'était le 3 avril.
Ouais, mais comme l'a dit Olivier, la saison, elle est longue. C'est-à-dire que la saison s'est terminée, malheureusement, contre Manchester. Et je pense que ça n'a pas dû être évident. Et la pilule n'est toujours pas passée. Je pense qu'en interne, ça doit imploser. C'est pas possible. On le voit, enfin, même dans l'attitude des joueurs.
Mais ça se ressent.
C'est pas une question
Tourelle
de
titulaire. Tourelle, depuis le mois de février, ça, c'est de pire en pire les confs. Ou même quand il se fait aborder par un journaliste, si t'as le malheur de faire une cagade, il te reprend derrière. Tu sens que le gars est nerveux, tu sens qu'il a une ligne directrice très claire et qu'il faut surtout pas que quelque chose sorte du chemin. Sinon, il ne le tient pas. C'est quelque chose. On sent une vraie tension chez cet homme-là.
Mais au-delà du fait que le Paris Saint-Germain soit en avance, qu'il soit champion, voilà, peu importe le nombre de points, est-ce que la mauvaise note du Paris Saint-Germain, ça serait pas une défaite contre Rennes le 27 avril prochain?
Ça ferait désordre de perdre quand même au Stade de France. On sait dire à Paris, chez toi, devant tes supporters, devant le Stade Rennais. Je pense qu'ils vont se remobiliser, qu'ils vont la gagner, cette Coupe de France. Maintenant, il va falloir aller la chercher parce que
tu as un cœur rennais, toi. Attention, je suis pas.
Non, parce que Rennes a une belle équipe, ils ont une belle carte à jouer, ils savent qu'ils sont pas favoris, ils ont dû voir le PSG de ces dernières semaines, donc ils se disent qu'il y a un truc à faire, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'ils la gagneront quand même.
Et puis Rennes a fait des belles choses, hein, il faut le dire, en Ligue Europa, évidemment, cette saison. Mamadou, un petit mot sur ce match d'hier entre Nantes et le Paris Saint-Germain, remporté par Nantes 3-2.
Je veux rebondir sur les propos de mon ami Nassim. Il a tout à fait raison. Et là où je suis d'autant plus surpris, c'est qu'en début de saison, on avait vraiment l'impression que Tuchel allait emmener un petit changement, à savoir inclure plus de joueurs issus du centre de formation dans la rotation. Il avait commencé à le faire.
Il a commencé à le faire.
Nkunku jouait souvent. Timothée Ouar jouait souvent. Nsoki. Et tous ces jeunes jouaient. Et d'un seul coup, tac, ça s'est arrêté. Et si jamais il avait continué dans cette voie-là, continuer à ménager ses joueurs phares et inclure les joueurs, parce que en championnat, mais depuis le début, on sait très bien que même en faisant des matchs nuls, même en mettant des joueurs en difficulté, mais c'est là où il progresse. Et il s'est arrêté, il a été pris à son propre piège lui-même. Alors et il aurait dû continuer dans cette voie-là. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, même si t'es sorti contre Manchester, les joueurs qu'on a fait jouer ne seraient pas là à jouer comme des faire-valeurs, parce que quand tu fais rentrer un joueur, on a joué ici. Je m'occupe pas de toi pendant 6 mois, et le jour où j'ai plus mes titulaires, bah vas-y, maintenant tu peux jouer. Comme disait Nassim, je rentre pas pour tout arracher. Au contraire, je risque même de traîner des pieds en faisant comprendre à l'entraîneur, ouais, quand t'as besoin de moi, tu me fais venir. Par contre, il y a des moments où je peux jouer. Enfin, c'est psychologique tout ça.
Et là, puis il y a la confiance en soi aussi. Quand une fois tous les 6 mois, que t'es juste pris pour la poubelle et on te fait jouer.
Je pensais que Tuchel a été psycho. Et c'est là où je vois que finalement, il est pas psycho, il est pas aussi psychologique. Il joue pas aussi sur la psychologie, dans le bon sens que ça. Et là où il lui-même freiné dans ce
rigolage, c'est dommage. Moi, je voulais pointer du doigt notamment le recrutement de Choupo-Moting. À la base,
il a le même agent que Tuchel.
À la base, le recrutement de Choupo-Moting, il est surtout là en fait pour ménager Mbappé et Neymar. Si un pépin, voilà, en attaque, ça, c'est une solution de rechange. Je comprends pas comment un joueur comme Timothy Weah n'a pas été la solution de rechange justement à Kylian Mbappé et et Neymar en cas de souci, même si c'est un attaquant de pointe. Voilà, ça aurait pu être l'attaquant de pointe numéro 2 du club pour soulager Cavani, pour soulager Mbappé. Là, on a préféré faire confiance en un joueur qui a été déjà très mauvais à Schalke 04 et qui, on le ramène pour être doublure dans un club visant la Ligue des Champions. Déjà, à partir de là, il y a un problème. Fais confiance en tes jeunes. On ne te dit pas de mettre Timothy Weah titulaire du PSG, mais en choix numéro 3, c'est largement plausible.
On va parler du recrutement et notamment de cette cascade de blessés. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Beurre FM qu'on parle du Paris Saint-Germain et notamment de la défaite du Paris Saint-Germain hier sur la pelouse de Nantes, 3-2. Voilà, donc on attend vos réactions avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook ou alors par téléphone au 01 53 48 30 00. 01 53 48 30 00. Olivier, voilà, Nassim en parlait à l'instant, évidemment, il parlait du recrutement, mais au-delà de ça, est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas victime de cette cascade de blessés? Voilà, c'est ça.
Le Paris Saint-Germain, et Dieu sait que j'ai été supporter du Paris Saint-Germain et que je le suis, donc je vais essayer d'être objectif. Le Paris Saint-Germain n'est pas toujours victime. Le Paris Saint-Germain est aussi parfois, et souvent en ce moment, coupable. Quand tu ne sais pas mettre ne serait-ce qu'une hiérarchie dans ton club, quand ton institution ne passe pas au-dessus des joueurs que tu recrutes, quand tu recrutes deux joueurs parce qu'effectivement ils ont une aura extraordinaire, mais que tu ne recrutes pas au poste clé. Quand tu recrutes des joueurs comme Choupo-Moting, je n'ai rien contre lui, je le dis tout de suite, mais on le sait très bien, et Nassim le dit très très bien, ce n'est pas un joueur du calibre du PSG, surtout quand tu as un Timothée Weah qui attend pour s'épanouir. Quand tu ne fais pas jouer les joueurs qui sortent de formation régulièrement, tout ça, en fait, c'est le club qui va pas bien. Donc Paris, on peut pas dire toujours que Paris est victime, on peut aussi dire que Paris est coupable et ne sait pas gérer son club.
Donc pour toi, c'est également la hiérarchie, Claude?
De toute façon, le PSG, comme les autres, comme Marseille, n'a jamais fait jouer, n'a jamais fait vraiment confiance aux jeunes, à part les cracks. Mamadou disait qu'on voyait les jeunes joueurs jouer en début de saison. La simple et bonne raison, que t'avais la Coupe du Monde. T'avais la Coupe du Monde, donc t'avais les stars qui se reposaient, qui sont revenus un petit peu plus tard. Donc tu redémarres ta préparation avec les jeunes pousses. Bah forcément, oui, bah on a vu sur les trois premières journées qu'il y avait du talent. Bah derrière tout ça, après, c'est terminé, quoi. Les stars reviennent, les stars jouent, quoi.
Et après, justement, juste pour revenir là-dessus, il a complètement raison. Mais en même temps, le recrutement de Paredes, par exemple, c'est un petit peu bizarre, ce recrutement. Il ne montre rien depuis qu'il est arrivé. Et puis, maintenant, on a aussi, moi, je dis que vraiment le club est coupable, mais il y a aussi les joueurs. À un moment donné, c'est dans les moments difficiles que les leaders doivent prendre les rênes. Et justement, à Paris, qu'est-ce qu'on reproche? C'est qu'il n'y a pas de leader. Donc, dans ce recrutement aussi, il y a des choses, pardon, qui sont un peu foireuses. Ça fait un moment qu'on sait.
Ils sont blessés, les leaders.
Oui, non, mais les vrais leaders de caractère, ceux qui sont là, qui te disent maintenant on y va. Il n'y en a pas à Paris depuis le départ de Thiago Motta, et ça manque.
Mais on ne devient pas leader, on est leader.
Exactement.
Donc forcément, tu peux recruter un joueur, s'il n'est pas leader, il ne le deviendra pas. Que tu parles de Paredes, il ne le deviendra pas par enchantement en rentrant au centre Redou. Mais au-delà de ça, juste pour faire un parallèle avec l'Ajax dont on va parler tout à l'heure, voilà, on a deux mentalités différentes. Alors je ne sais pas si c'est l'environnement français qui fait que d'un seul coup, on se fond dedans, mais on prend le parallèle avec l'Ajax. L'Ajax fait jouer ses joueurs à partir de 16 ans, 17 ans. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Mais en fait, en France, on n'a pas ce...
C'est la même mentalité.
Mais oui, mais on a l'impression que même un coach qui vient de l'extérieur, qui pourrait emmener cette mentalité-là, finalement, quand il arrive, il se fond dans le truc en disant « Ah non, trop jeune, on fait pas jouer. » Bon, Mbappé, c'est un cas exceptionnel. Mais des joueurs comme Timothée Weah, des joueurs comme Nkunku doivent être plus souvent sur le terrain. C'est que quand t'as vraiment besoin d'eux, mais ils sont à fond. Mais là, ils jouent à moitié.
Mais est-ce que tu penses qu'au-dessus, au niveau des institutions, on a envie de faire jouer ces joueurs-là?
Je pense que je suis pas sûr.
En tout cas, vous soulevez un problème de management. Nassim, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui est dit un peu ici autour de la table?
Moi, je vais rajouter quelque chose. Il manque aussi l'amour du club, l'âme du club, l'âme de l'institution. Je vais vous raconter une anecdote pour que ça rentre plus facilement. On est en 2004-2005. Le Bayern Munich et la réserve du Bayern Munich jouent la Coupe d'Allemagne, les deux équipes. Forcément, il faut donc 34-40 joueurs pour que les deux équipes puissent jouer la Coupe d'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs cadres de l'équipe première du Bayern Munich acceptent de jouer avec la réserve du Bayern pour jouer la Coupe d'Allemagne. Résultat, les deux équipes du Bayern arrivent en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. La première équipe et la réserve. Des joueurs comme Willy Sagnol, Roque Santa Cruz, qui faisait les grands jours du Bayern Munich, vainqueur de la Coupe de la Ligue des Champions en 2001, il me semble, jouent avec l'équipe réserve. Ils jouent avec la réserve. C'est comme si, imaginez, Thiago Silva et Neymar descendent avec la B pour jouer la Coupe de France avec l'équipe du réserve du PSG. On sent là l'amour de l'institution, l'amour d'un club qui leur a donné une Ligue des Champions, qui leur a donné du temps de jeu, qui leur a donné une image. C'est ça ce qui manque au PSG, donner donner cet amour aux joueurs pour qu'ils leur rentrent derrière. Il manque ça au PSG, l'âme.
Donc hiérarchie, management et l'amour du club. Pour finir, Claude.
Pour finir, c'est qu'en Allemagne, c'est la Coupe du Comité. L'équipe 1 et réserve jouent dans la même coupe.
C'est fou ça, la Coupe du Comité.
Ça, c'est la Coupe des équipes 2, 3, 4 en France.
C'était un cas particulier, mais ça s'était passé, c'était incroyable.
En tout cas, l'Allemagne, on aura l'occasion d'en reparler pour le Paris Saint-Germain. Les prochains rendez-vous, c'est PSG Monaco ce dimanche et Rennes PSG le 27 avril au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. On se retrouve dans quelques instants sur Beurre FM et sur Thaï Sport pour parler évidemment de foot féminin avec notre invité Nisrine Daoudi et on parlera également de la Ligue des Champions. A tout de suite sur Beurre FM.
18h, 19h, Thaï Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Thaï Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Thaï Sport avec les consultants Nassim Bourras, Olivier G, notre coach national Claude Tollet, Mamadou Lamine Mané. On a parlé évidemment du Paris Saint-Germain et de cette défaite hier sur la pelouse de Nantes. Voilà, 3 buts à 2. On va parler maintenant d'une joueuse, d'une footballeuse évoluant à Montauban en Ligue 2, Nisrine Daoudi. C'est incroyable, mais vrai.
Thaï Sport.
Et oui, comme je le disais, voilà, c'est notre invité aujourd'hui, Nisrine Daoudi, footballeuse évoluant à Montauban en Ligue 2, égérie Yes We Play Football et présidente de l'association Sans Frontières. Bonsoir Nisrine.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes footballeuse internationale marocaine. Vous évoluez actuellement à Montauban en Ligue 2. Voilà, j'espère que jusqu'ici tout est bon. On va parler un peu de votre parcours. Quel est le parcours qui vous a amené à évoluer aujourd'hui jusqu'à Montauban et jusqu'à l'équipe nationale du Maroc?
En fait, il faut savoir que j'ai que des frères, 4 frères et je suis la seule fille d'une fratrie et c'est eux qui m'ont donné le goût du ballon et par la suite en fait j'ai été repérée très jeune à l'âge de 5 ans déjà au TFC, mais sauf que il y avait une distance incroyable entre Toulouse et Groyer à ce moment-là. Bon, Groyer c'est une petite ville et du coup en fait j'ai rejoint le TFC à l'âge de 13 ans parce que féminine, il faut savoir qu'on n'a plus le droit de jouer avec les garçons. Et par la suite, j'ai continué ce parcours au TFC à jouer en D1, U19 nationale. Puis ensuite, je suis repartie à Muret pour jouer en D1. Et aujourd'hui, je me retrouve à Montauban en D2.
Et donc du coup, on va parler un peu justement de la saison actuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire si les objectifs que vous êtes fixés, ils sont atteints? Et comment ça se passe la saison?
Alors pour la première partie de saison, c'est vrai qu'on a bien géré l'effectif, c'est-à-dire qu'on est parti avec un bon effectif et après on a eu que des aspects positifs, donc des victoires, soit des matchs nuls. Et en fait, il s'avère que quand on a eu une petite défaite, il y a eu un petit relâchement au niveau collectif. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une place de 8e au classement, sachant qu'il y a quelques jours, on était 4 à 5e sur le classement.
Et là, actuellement, vous êtes 3e, c'est ça?
Non. Non, actuellement, on est 8e.
8e, bon.
Ouais.
Bah, j'ai vu les...
Non, non. C'est pas lire.
Non, mais attends. Bah,
c'est confirmé.
Je me suis trompé. Ça arrive. Voilà, j'ai fait un instant note jusqu'au début. Voilà, vous êtes 8e actuellement, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et donc, donc est-ce que les objectifs sont atteints?
Non, pas du tout, parce que là, on est encore sur... On est sur un enjeu, c'est-à-dire de grimper encore au niveau du classement, c'est-à-dire qu'on peut toujours finir 4e, voire 3e. Et du coup, en fait, l'objectif est loin d'être atteint actuellement. Et ce week-end, ça va être déterminant pour nous.
D'accord. Et du coup, vous allez forcément suivre cette Coupe du Monde de football qui se déroule en France, je suppose. Évidemment.
Exactement.
Qui va médiatiser le sport féminin. Un petit mot sur cette compétition et surtout sur la médiatisation du sport féminin.
Pour moi, je trouve ça énorme de pouvoir suivre le football féminin parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui font évoluer le football féminin au niveau médiatique. Donc on voit comme l'apparition de certaines joueuses dans Canal+, dans Beansport. Et seulement ça fait progresser cet aspect. Et aussi, surtout, je trouve que les garçons participent beaucoup à ce développement aussi.
Et oui, évidemment, puisque après la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de football, voilà, évidemment remportée par l'équipe de France, y a eu des soutiens, puis aussi un développement évidemment de la médiatisation du sport féminin sur les réseaux sociaux. Il y a notre chroniqueur consultant Nassim Bourras qui veut poser une petite question.
Oui, bonjour Nisrine.
Bonjour.
Tout d'abord, bravo pour votre parcours. Donc j'ai vu que vous avez pu évoluer à Toulouse, à Muret et à Montauban. C'était pour savoir si vous vous plaisez dans le sud-ouest français ou si vous avez pour ambition un jour de sortir un peu du sud-ouest et d'aller pourquoi pas voir le football étranger. Pourquoi pas en Allemagne, aux États-Unis, ou pourquoi pas ailleurs en France.
Attends, on va traduire. En fait, c'est parce que Nassim souhaiterait vous rencontrer.
Oui, mais comme il dit, j'ai été sollicitée aussi pour jouer aux États-Unis. Sauf qu'à ce moment-là, malheureusement, j'ai eu mon père qui était atteint d'un cancer en phase terminale. Donc, du coup, j'ai pas pu rejoindre ce club. C'est pour ça que j'en ai pas spécialement parlé. Et c'est vrai que ça serait un beau cadeau de pouvoir retrouver ce club.
Et une deuxième question. Donc, il y a eu le tournoi pré-olympique féminin de la CAF qui s'est déroulé début avril avec le match contre le Mali et malheureusement cette élimination du Maroc. Comment vous l'avez vécu cette élimination pour les JO de Tokyo?
Malheureusement, c'est toujours compliqué de savourer une défaite. Mais après, on apprend par ses défaites en fait, donc ça nous fait grandir. Et après voilà, comme on dit, on grandit pas en ayant tout le temps de l'or dans la bouche. Donc pour moi c'est un élément essentiel de pouvoir faire évoluer le football féminin en Afrique. Donc c'est pour ça que je réalise des actions en Afrique.
Et Nesrine, bonsoir, donc c'est Olivier. J'avais une question aussi, c'était quels sont vraiment vos objectifs personnels à long terme?
À long terme, donc c'est vrai que en tant que femme, je ne peux pas continuer mon football. Mais à long terme, ça serait de pouvoir subvenir aux besoins des enfants d'Afrique et les personnes les plus démunies aussi en France, parce qu'on oublie souvent les SDF.
Tout à fait.
Donc voilà.
Ce qu'il faut rappeler évidemment, Nisrine, que vous êtes très investie également en dehors du terrain. Vous êtes présidente de l'association Sans Frontières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association et puis cette volonté de tendre la main vers l'autre?
Alors, cette association consiste à aider, comme je vous ai dit, les enfants d'Afrique. Actuellement, on œuvre au Sénégal. Alors, j'ai commencé très jeune, après le décès de mon père. Et en fait, il n'y avait pas une association officiellement, c'est-à-dire au niveau de la préfecture. Je n'avais pas fait les démarches, mais je voudrais en fait à récupérer beaucoup de matériel pour les envoyer. Donc j'ai récupéré 400 kilos sans avoir 400 kilos de vêtements, équipements sportifs et autres, sans pouvoir les envoyer. Donc j'étais bloquée au niveau administratif. Donc c'est de là où j'ai voulu mettre en place cette association et pouvoir envoyer aux enfants d'Afrique les 400 kilos. Donc j'ai eu le soutien de la ministre de la Défense qui a pris en charge l'ensemble des dons, le transport. Et du coup, en fait, on apporte ses affaires. On est dans la construction depuis et dans l'éducation par le sport et dans l'éducation au niveau scolaire.
Il y a notre coach Tollet, notre Claude Tollet, voilà, qui est entraîneur également, il faut le rappeler, d'une équipe féminine à Viroflay, qui veut poser une petite question.
Bonjour Nisrine.
Bonjour.
Le football féminin en Afrique, alors on sait qu'on est en plein développement en Europe, notamment en France. Il en est où le football féminin sur le continent africain?
C'est assez compliqué. Vraiment, c'est assez compliqué dans le sens où, voilà, c'est un peu comme la France il y a quelques années. On parle pas beaucoup du football féminin. La place est toujours minime, mais voilà, pour moi aussi c'est un combat de pouvoir faire parler du football féminin par rapport à la position que j'ai actuellement au Maroc, et pourquoi pas encore avec l'association de pouvoir privilégier aussi le football féminin dans chaque endroit où on va œuvrer.
À 24 ans, vous êtes très active, Nisrine, évidemment. Notre chroniqueur également, consultant Mamadou Lamine Mané, veut poser une petite question.
Bonjour Nisrine, ça va? Bonjour, ça va, très bien.
Bah, on a échangé beaucoup. Oui, très très bien. On a beaucoup échangé par texto. Bah, je suis content de t'avoir à l'antenne. Moi, je t'ai découvert. Effectivement, j'ai vu comment tu pouvais t'investir en dehors du terrain. Mais justement, qu'est-ce que tu comptes faire une fois? Je te souhaite de continuer encore très longtemps. Mais que comptes-tu faire une fois que tu auras vraiment raccroché les crampons? Parce que là, je sens que ton association prend de l'ampleur. Est-ce que tu comptes y donner à fond et peut-être lui donner encore plus de visibilité et plus de surface par rapport aux actions que tu mènes?
Après, moi, je ne parle pas spécialement de visibilité parce qu'en fait, moi, ce que je cherche, c'est vraiment de pouvoir donner le sourire aux enfants. Et je pense que c'est ça qui donne cette visibilité. Et en fait, je ne cherche pas spécialement la lumière envers l'association, mais plutôt la lumière envers le sourire des enfants.
Je comprends bien, mais ça, je sais, j'ai vu, on connaît, je connais ta personnalité. Le but, ce n'est pas de te mettre toi en avant, mais dans les actions que tu vas pouvoir faire, quand je te dis donner plus de surface et de visibilité, est-ce que tu veux aller encore plus loin que ce que tu fais aujourd'hui?
Exactement, c'est pouvoir en fait utiliser les valeurs de l'humanitaire, que ça soit inscrit dans les limites dans l'éducation nationale, vraiment.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite et tout le mal qu'on te souhaite. Hein, c'est une très belle initiative.
En tout cas, merci Nisrine pour cette interview, voilà, qu'on pourra retrouver sur le site beurrefm.net. Je rappelle que vous êtes footballeuse internationale marocaine, évoluant à Montauban. Voilà, et Géry Yes We Play Football et présidente de l'association Sans Frontières. Merci Nisrine.
Merci à vous.
Au revoir.
Après avoir parlé évidemment de football féminin avec Nisrine, notre invité, on va enchaîner avec l'actu du moment. C'est la Ligue des Champions et c'est l'heure de la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et la victoire, c'est celle de Liverpool hier. Évidemment, Liverpool, puisque Sadio Mané qui a montré la voie aux joueurs de Liverpool à Porto, l'international sénégalais de Liverpool qui a forcé le verrou portugais et libéré ses partenaires. L'homme aux 14 buts en Ligue des Champions a également été passeur décisif. Une soirée pleine pour celui qui serait convoité par le Real Madrid. Mané semble-t-il avoir atteint la plénitude de son talent. Abnégation, prise de risque, respect du collectif, décisif dans le Money Time. Il semble prêt pour son envol vers l'étage supérieur. Est-ce que ça sera le Real Madrid? Élément de réponse avec Olivier G.
Alors je sais pas si ce sera le Real Madrid, mais en tout cas pour moi il se rapproche du joueur parfait. C'est les garçons, déjà c'est 22 buts en 43 matchs cette année, c'est 13 réalisations en 18 apparitions en 2019. Par exemple, en effet miroir, on peut prendre Mohamed Salah qui lui est à 23 buts en 46 matchs cette année. Donc on peut voir que les stats de notre ami Sadio Mané sont juste gigantesques. C'est un sacré joueur sur le terrain, il est percutant, il se plié pour le collectif, il est prêt à tout pour les collègues. Ce qui manque dans certains autres clubs, et ben voilà, des joueurs comme Sadio Mané, ça vaut de l'or. Je sais pas où il ira, mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il sera très cher. Et tu parlais du Real Madrid tout à l'heure, ben honnêtement, je leur souhaite, parce qu'avec un gars comme ça sur le terrain, tu sais déjà que t'as un combattant et que en plus t'as quelqu'un qui est très efficace.
Mamadou, un petit mot sur Sadio Mané.
Bah oui, mais moi, quand on parlait du Real de Madrid, mais je regardais mon ami Nassim, c'est vrai que je faisais des signes, je fais peut-être que Nassim le voudrait bien au Bayern de Munich.
Ah, mais moi,
je
pense que tout le monde.
Mais vous ne voyez pas, je faisais des signes depuis tout à l'heure.
Mais là, ça fait des années que je milite pour son arrivée, malheureusement, je pense pas qu'ils vont nous le céder pour un prix raisonnable.
Mais le Bayern a décidé de mettre le paquet, et depuis, ça fait assez longtemps que. Enfin, ça fait très longtemps que le Bayern parle très peu d'argent. C'est un club qui est très, très bien, justement, organisé, qui dépense un sou est un sou pour le Bayern, et en termes d'organisation et en termes de gestion, il n'y a pas mieux.
Mais cette année, Mané, il partira pas pour moins de 100 millions. Là, c'est
quel l'enveloppe du Bayern est de 500 cette année. Hein,
oui, mais Ulenes ne veut pas mettre plus de 100 millions sur un joueur pour le moment.
Et là où Nassim a raison, c'est que ça ne partira pas en dessous de 130.
En tout cas, pour recentrer le débat et pour revenir sur Sadio Mané, bien sûr, je pense que là, Liverpool est déjà un top club. Hein. Alors, est-ce qu'on peut le placer dans un top 5, top 6, top 7, je ne sais pas. C'est peut-être pas le top 3, puisque le top 3,
attends,
dans le top 3.
Juste une stat, la dernière finaliste de Ligue des Champions, cette année, ils sont en demi-finale. Donc, on peut déjà dire que sur les deux dernières années, ils sont dans le top 5.
En tout cas, on a tout. Hier, on a eu Mohamed Salah, on a eu Roberto Firmino, on a eu Van Dijk, on a eu
surtout. Offensif,
eh ben voilà, c'est incroyable évidemment le score et le match hier de Liverpool.
Pour passer une équipe dans le top 2, top 3, il faut quand même une longévité de 4, 5, 6
c'est
ans.
C'est pour ça que reproduire. Je parle de top 5, mon cher ami.
Donc c'est pour ça que revenir en demi-finale déjà, c'est super sur 2 ans, mais placer vraiment dans le top 3, top 4, faut vraiment une sacrée longévité. Mais donc ce joueur-là, il s'appelle Mané, bien sûr, forcément, donc il mérite l'excellence.
Une parole de Mamadou Lamine Mané. Allez, on enchaîne. Nassim, un petit mot sur ce match et surtout sur cet international sénégalais.
Oui, c'est un ange déjà en dehors du terrain. c'est un ange sur le terrain, c'est l'ange qui donne la victoire très souvent aux Reds. Avec Mohamed Salah, c'est vraiment un duo fantastique, aussi bien en dehors que sur le terrain. Voilà, Jürgen Klopp a réussi à avoir deux joueurs lors de leur signature pas forcément incroyables, pas forcément Tony Truant, pas forcément les joueurs les plus bankable du marché, mais des joueurs complémentaires capables de faire gagner une équipe. L'équipe de Liverpool n'est pas vraiment, c'est pas une équipe dont les noms font foncièrement rêver.
Bah, voilà. C'est un trio offensif quand même.
Oui, mais il y a 3-4 ans, voilà.
Oui, tout à fait.
C'est pas une équipe qui tu te dis comme quoi elle va arriver deux fois en finale de Ligue une fois en finale de Ligue des Champions et une autre fois en demi-finale. Voilà, là on sent que Jürgen Klopp a réussi à créer une alchimie, un 11, on parlait tout à l'heure avec le PSG. Là voilà, il y a une âme qui ressort de cette équipe.
Top coach.
Voilà, les défenseurs de Liverpool, ils sont pas forcément incroyables. Van Dijk est le leader de cette défense, mais les trois autres sont pas forcément extraordinaires, c'est pas des top défenseurs mondiaux, mais ensemble, ils forment une top défense mondiale. Et elle est là, la différence avec le PSG. C'est que là, Jürgen Klopp a réussi à créer justement une alchimie, un 11. Il y a un 11 et même les remplaçants derrière qui permettent à cette équipe d'arriver deux fois dans les phases avancées en Ligue des Champions. Et voilà, je voulais tirer le chapeau à cet entraîneur allemand qui franchement fait du très très bon travail et associé à ses joueurs qui en font aussi du très bon travail.
En tout cas, ils ont réussi quelque chose d'exceptionnel hier en se qualifiant évidemment pour, je le rappelle, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et pour revenir sur Sadio Mané, c'était le sujet au début, il a failli ne jamais jouer au football. Son père, imam du village au Sénégal, ne voyait pas cette passion d'un très bon œil. Alors voilà, Sadio Mané a fugué à l'âge de 15 ans vers Dakar avant de se rattraper et frapper par le paternel qui le ramènera Manu Militari à la maison. Et il dit à ses parents, soit vous me laissez jouer, soit je continuerai à fuguer. C'est incroyable l'histoire quand même de ce joueur. Claude,
ça vient de l'art, ça vient de l'art.
Abnégation.
Mais carrément, il est parti de rien, Sadio Mané. Il économisait des centimes pour s'acheter des paires de chaussures. Il part à l'âge de 15 ans.
Il vient de Bambali.
À Dakar, il est recruté par Génération Foot, qui est en partenariat avec le FC Metz. Alors comment un problème au niveau de la formation aussi, c'est que il est passé par le FC Metz. Et puis bon bah il s'envole à l'étranger, puis on voit ce que ça devient. Et puis Mané, il l'a dit, Simon, en dehors du football, c'est aussi quelqu'un qui a construit par exemple un hôpital, un lycée dans son village.
Quand tu l'écoutes parler, c'est de la sagesse.
Ça vient de là. Et puis anecdote, il y a un des portiers du Sénégal qui s'est fait une double fracture, qui joue en Guinée. Il a pris les devants, il a pris sa responsabilité pour l'emmener à Liverpool et qu'il se fasse soigner. Mané, c'est aussi ça.
Et ça, c'est une très belle image, très belle anecdote. On va finir avec toi, Mamadou, un petit mot. T'en avais plus ou moins parlé, Sadio Mané. Qu'est-ce qu'on peut penser, évidemment? Est-ce qu'il va rejoindre le Real Madrid?
Je lui souhaite de rejoindre le meilleur club possible. Liverpool est déjà un top club, mais s'il peut y rester, c'est tant mieux. Mais s'il peut aller, si dans l'épanouissement de sa carrière, et s'il le souhaite et qu'il puisse aller encore plus loin, tant mieux, parce que c'est ce genre de joueurs-là, on a envie de les accompagner et ils le méritent.
En tout cas, on en reparlera évidemment de Sadio Mané et de Liverpool, qui, je rappelle, voilà, est en demi-finale de Ligue des Champions. Restez connectés sur Beurre FM. On se retrouve dans quelques instants pour la Ligue des Champions.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants Olivier G, Nassim Bourras, notre coach Claude Tollet, Mamadou Lamine Mané et notre réalisateur Hugo, qu'on remercie évidemment pour cette animation, évidemment, tous les soirs de 18h à 19h, je le rappelle. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé évidemment de foot féminin avec Nisrine Daoudi, notre invité, mais pas que. On a parlé aussi de son association et on a enchaîné avec la Ligue des Champions et on continue avec la Ligue des Champions. C'était le duel d'hier soir entre Manchester City et Tottenham. C'est parti.
Time Sport. Le duel.
Et le duel, finalement, c'est Tottenham qui fait tomber Manchester City au bout d'un match d'anthologie et qui rejoint l'Ajax Amsterdam en demi. Un petit mot sur ce match. Déjà, qui l'a regardé, ce match d'anthologie?
Alors moi, je l'ai regardé. C'est un match complètement d'anthologie. Ça aurait pu être même un des matchs phares de la Ligue des Champions depuis l'existence de la Ligue des Champions.
Ah, voilà, c'est beau.
Mais, ce but à la 92e minute refusé. Il y a des pour, il y a des contre. Il n'y a pas de souci. L'apport de la VAR, ça mérite un gros, gros, gros débat. Tu vois tout ce public de Man City, tu vois l'équipe de Man City qui fête ce but pendant une bonne grosse minute quand même. Je veux dire, on les voit tous qualifiés. le but est annulé pour un hors-jeu peut-être selon les points de vue d'un centimètre, de centimètre. Là, je trouve que c'est dur. Alors, c'est les règles, je suis d'accord. Hein, c'est les règles. Comment ?
Il y a hors-jeu.
Non, mais d'accord, bien sûr. Mais justement, c'est le gros débat. C'est quand même qu'à un moment donné, ça tue quand même l'essence du foot. Surtout qu'on n'est même pas vraiment sûr. L'arbitre n'a même pas pu vraiment valider. On n'est vraiment pas vraiment sûr de ce hors-jeu.
Imaginez quand même les fans de Tottenham qui voient leur élimination
sur la VAR. Non,
je me mets à leur place, je deviens fou.
La VAR tue le football.
Les supporters de Tottenham, savent très bien qu'ils reviennent de nulle part. Ils ont inventé une chanson sur la VAR à la fin du match, justement.
Alors, on va faire un petit résumé. On va revenir un peu sur ce match. Vainqueur à l'aller 1-0, Tottenham est allé chercher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City, 3 buts à 4, mercredi soir. Donc finalement, il gagne au but marqué à l'extérieur. C'est un peu une surprise quand même. Hein. Bon, on a parlé de la VAR, on était sur un vrai débat. Nassim, t'as regardé le match ?
Non, la Ligue des Champions pour moi c'est terminé à partir du moment où le Bayern est éliminé.
Je suis enragé.
Après, concernant la VAR, non, je suis pas d'accord. La vraie trahison envers le football, ça aurait été un Manchester City qualifié sur un hors-jeu.
Non, parce que dans ce cas, tu prends l'exemple de Llorente. Aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il marque le but de la hanche ou du coude. Et la VAR n'a pas pu déceler ça. Dans ce cas, c'est une injustice d'un côté et pas de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une réelle équité. Il y a une histoire de lecture du jeu. Et là, pour Llorente, les doutes sont encore permis aujourd'hui. Tu prends n'importe quelle image, tu ne sais pas s'il la touche du coude.
D'accord. Là, t'as le doute sur Llorente. Mais est-ce que t'as le doute sur l'hors-jeu ?
T'en as pour chaque côté.
Il y a
un gros doute selon les différences de
pour avoir vu les angles pris par la caméra, on voit bien que Agüero est hors jeu.
Non, arrête.
Guardiola ne dit rien là-dessus. Il y a hors jeu.
Ah non, justement, il a parlé sur l'hors jeu en soi.
En tout cas, si vous nous rejoignez dans cette fin d'émission, on parle de Ligue des Champions et de la victoire, enfin plutôt de la victoire de Manchester City et de la qualification de Tottenham. Et voilà, comme vous le voyez évidemment, la VAR, ça fait encore une fois débat. Puisqu'on peut pas revenir finalement en arrière. Voilà, c'est fait, le mal est fait. Tottenham est qualifié, VAR ou pas VAR. Voilà, c'est vrai.
Pourquoi le mal,
parce que s'il n'y avait pas eu.
Le bien est fait.
C'est un débat. C'est-à-dire que la VAR n'est pas sûr.
La VAR tue le football. Non mais moi je suis pas d'accord. Je vais laisser finir Claude, mais je suis pas du tout d'accord avec lui.
C'est pourquoi regarde.
Dis-moi. Olivier est en train de parler d'un match. Franchement, j'ai vu un gros résumé puisque j'étais en train.
C'est un match de fou. J'étais en train de travailler la finition, les gars. C'est un match de fou.
Un match vraiment de fou.
Mais oui, tu le regarderas en replay entièrement.
Quoi,
ça vaut le coup.
On parle de quoi ? On reste sur la VAR. Ça te tue même au niveau des analyses. On ne parle même plus de jeu. T'es en train de me parler d'une vidéo d'un angle.
Et l'émotion des supporters, mon Dieu.
Tu vois, tu marques un but, l'émotion, quand tu marques un but, il y a cet instinct, cette joie, là t'es obligé de... Non. Je suis désolé.
Je veux bien concéder ça à Claude, à savoir que l'effet de d'immédiateté, cet effet de
la spontanéité.
Ah oui, excuse-moi Olivier, je cherche
mes
mots.
Non, c'est pas ça, mais ce que je veux dire,
l'effet de spontanéité qu'on avait avec l'arbitre, qui peut prendre une décision, qu'il la prend tout de suite ou pas, bonne ou mauvaise, qu'on accepte ou pas. Elle est coupée avec la VAR, mais derrière.
Malgré les remous que ça suscite,
il y a le fait. La vérité, ça ne veut rien dire. Mais au moins, on peut éviter d'avoir des écueils et d'avoir des résultats qui ne puissent. Parce que Nassim parlait tout à l'heure des supporters Tottenham.
Non, oui, effectivement. Je suis obligé de te couper.
On a laissé les supporters de Manchester partir et exalter. Mais qu'auraient dit les supporters de Tottenham si le but avait été accordé alors qu'il y a
c'est parti du jeu, non, c'est parti du
attends,
jeu
Olivier. Justement, et que disent les supporters de Manchester City aujourd'hui quand le but de Llorente, on ne sait pas s'il est bon ou pas. C'est la même chose de l'autre côté. Ouais, bien sûr Claude, ça touche.
Je pense que la VAR c'est un révélateur.
Quand on dit que la VAR a fait finalement la justice sur ce match-là, eh ben non. Je suis désolé, c'est prouvé. Là, faut être pragmatique, les garçons. Ce n'est pas du tout sur ce match-là qu'on pourra dire ça.
En tout cas, on va finir avec Nassim sur ce sujet. Je rappelle que Tottenham, qui a perdu hier face à Manchester City 4-3, est quand même qualifié et retrouvera l'Ajax et Barcelone retrouvera Liverpool. T'as le mot de la conclusion.
Oui, justement, Costolé parlait justement de revenir au jeu. Il a raison. Moi, je voulais revenir sur Heung-min Son, qui est fantastique, qui explose cette saison, qui rappelle justement un illustre sud-coréen qui avait joué en première ligue, Jisung Park, pour les couleurs des Red Devils. Fantastique. Et là, il qualifie son équipe. Et je voulais aussi pointer du doigt Pep Guardiola, qui depuis son départ de du FC Barcelone n'arrive pas à remporter à nouveau cette Ligue des Champions, que ce soit avec le Bayern Munich, que ce soit avec Manchester City. On voit bien qu'il y a un réel problème avec son jeu. Le jeu de possession ne suffit plus. Ça ne suffit plus d'avoir 80% de possession de balle. Il faut s'adapter et il faut faire... faut trouver un autre style de jeu, un peu comme Didier Deschamps a pu le faire avec l'équipe de France, un peu comme le Real Madrid le fait avec Zidane. Voilà, c'est, il faut s'adapter parce que rester borné sur le jeu de possession ne permettra pas maintenant de remporter une Ligue des Champions, une Coupe du Monde.
Allez, le mot de la fin pour Olivier, vraiment, très ouais, rapidement.
Oui et non, parce que quand même, à 2 cm près, hier, il est qualifié quand même, Guardiola. Ouais,
ouais, pas, non, mais c'est vrai.
Tu peux avoir un jeu de position tout en ayant un bloc défensif aussi compact. Hein.
En tout cas, c'est sûr que, évidemment, Pep Guardiola, le manager de Manchester City, échoue pour la deuxième année consécutive dès les quarts de finale. Et je rappelle pour Tottenham que Tottenham rencontrera l'Ajax le 30 avril à 21h. Et c'est l'heure de parler de l'Ajax, c'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, l'Ajax, si on en parle, c'est pour sa valeur marchande, puisque la valeur marchande des joueurs de l'Ajax a explosé en 9 mois. S'il y en a un qui se frotte les mains à l'Ajax, c'est le directeur sportif Marco Overmars. Non, mais c'est vrai, faut le dire. En 9 mois, la valeur marchande des joueurs de l'Ajax a augmenté de quasiment 200 millions d'euros, selon les estimations du site spécialisé Transfermarkt.
Et attends, donc, parce que s'ils vont au bout de la Ligue des Champions.
Eh oui, c'est pas encore fini. En tout cas, on va commencer par toi, Olivier. Finalement, former des joueurs techniques et prôner un jeu spectaculaire, porté vers l'offensif, c'est payant.
Mais c'est plus que payant. Maintenant, avec honnêteté, les gars, si on a une honnêteté intellectuelle là sur ce point-là, en septembre, qui voit Amsterdam en demi-finale? Aujourd'hui, tout le monde dit oui, c'est normal, c'est là la Cruyff. En septembre, si tu demandes 5 favoris, personne ne te met à
l'Ajax. Alors moi, je suis d'accord avec toi, entièrement.
Non, c'est la réalité, parce qu'on peut faire les experts, mais personne ne les voit au début d'année.
Aujourd'hui,
c'est formidable. Moi, par contre, j'ai hâte de voir, effectivement, en période de mercato, combien sur ces 11 titulaires, ou même avec les remplaçants, combien vont rester l'année prochaine. C'est là, je pense que la chute risque d'être assez ultime. Maintenant, effectivement, la formation est formidable. Ils vont récolter des billets par millions, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, au mercato.
On va aller très rapidement, je te repose une petite question avant de faire un petit tour. Est-ce que ce modèle, le modèle de l'Ajax, il est transportable en France?
Il doit être transportable pour une seule raison, c'est qu'en France, on se pavane sur le championnat qui est trop faible pour le PSG. L'Ajax, c'est un championnat qui est très faible. Et la deuxième truc, pour un garçon comme Jean-Michel Aulas qui tout le temps, le budget, bah non, l'Ajax prouve qu'avec 50 millions, tu peux faire une demi-finale de Ligue des Champions. Si la formation est costaud, c'est un exemple magnifique.
Très belle analyse, Nassim.
Justement, il parlait de Lyon. C'est exactement le club qui ressemble le plus à l'Ajax en France. Mm-hmm. C'est le club qui a le meilleur centre de formation d'Europe quasiment avec l'Ajax. C'est Lyon. Et la différence est que il y a un souci en fait entre le passage entre le centre de formation, les équipes réserves et l'équipe 1. Il est là le problème en France. Il est là le problème à Lyon. Il est là le problème à Paris. Il est là le problème à Marseille. Il faut faire confiance en ces jeunes. Ces jeunes sont capables de rendre un gros travail, beaucoup de réussite. On pense notamment à Jadon Sancho. Il a 18 ans, 19 maintenant, et qui arrive à rendre de grands services au Borussia Dortmund, à l'équipe 1. Il faut rendre service et rendre confiance à ces jeunes.
Claude, mais on fait confiance à nos jeunes en France, à part justement ces gros clubs. Ils n'ont pas le moyen, les autres clubs français. Donc, on fait confiance. La différence, c'est que
le modèle de l'Ajax, il est payant.
Troyes et autres Rennes, par exemple, se font piller très rapidement. Le modèle de l'Ajax, ça fait depuis 40 ans qu'il existe. Hein. Ça a toujours eu lieu. Mais c'est vrai que depuis l'arrêt Bosman, ça explose dans tous les sens.
Mamadou, très rapidement.
Le modèle est payant. Il faut le faire. Et il faut juste avoir la mentalité et ne pas être frileux.
Merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci aux consultants. On se retrouve demain, 18h, 19h sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.